avant de vous donner la parole, messieurs, juste une petite information. Donc, je me suis rendu au sommet des dieux, où notamment on évoquait les contraintes maintenant pour les lieux de culte, résultant de la loi, qui visait notamment l'islam, qui s'étend évidemment à tous. Donc, on a des obligations nouvelles, notamment nous devrons, tous les lieux de culte, hein, quels qu'ils soient, faire une demande de reconnaissance de toute qualité auprès de la préfecture. Et cette reconnaissance, lorsqu'elle est accordée, vaudra pour 5 ans et sera renouvelée. Et évidemment, eh bien, les juristes, notamment du CNEF, les assemblées de Dieu, ont examiné l'esprit de la loi, les principes, et donc tout ce qu'il faudra mettre en œuvre. Savoir que ne pas se déclarer, c'est assorti de sanctions pénales, financière, hein, pour les dirigeants. Et puis, évidemment, les préfets peuvent refuser, enfin, voilà. Bon, on est bien au point par rapport à ce qu'il faut faire, mais il y a plein de contraintes. Et je vous avais dit que je vous tiendrai au courant, hein. Voilà. Donc, la première chose que nous aurons à faire, c'est de mettre nos statuts, les juristes ont travaillé sur les statuts pour qu'ils soient en accord avec les principes tels qu'ils ressortent de cette loi. Donc, on sera amené, une fois que cela sera prêt, à solliciter l'Assemblée extraordinaire, à réunir l'Assemblée extraordinaire pour déjà valider sa vie. Après, il y a d'autres contraintes. On a jusqu'au juin, hein. Mais bon, il y a de quoi faire, hein. En tout cas, voilà, l'esprit de ce rassemblement, c'est de dire, malgré tout, avant tout, c'est l'esprit, hein, nous sommes conduits par le Seigneur, bien sûr, mais nous devons nous conformer aux principes de la loi, pour autant qu'elle ne provienne pas ou qu'elle ne nous amène pas à commettre des choses qui ne seraient pas conformes à Dieu. Voilà, en tout cas, donc, prions pour cela tout de même, hein. Voilà, et dans ton côté, il y en a des questions un petit peu, avec un appel aussi à jeûner, parce qu'au fond, on voit aussi qu'à certains égards, il y a de plus en plus de surveillance. On nous a parlé de police d'équipe, etc. Donc, on dit souvent déjà, mais voilà, on sait bien ce qui trouble l'État, hein, bien sûr, hein, et veulent des garanties pour s'assurer effectivement que les lieux de culte ne deviennent pas certains lieux de culte, hein, des sources de problèmes. Voilà, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Voilà, donc que le Seigneur nous accompagne dans toutes ces choses. Alléluia. Voilà. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, verset 54. Luc 12, verset 54. C'est Jésus qui parle. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te prenne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu ne te viennes jusqu'au dernier centime. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens ont été les plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Je crois que ce matin, je confirme qu'il y a un appel à la repentance. Donc, c'est un message qui n'est pas très populaire et qui peut même finir par manquer. Mais pourtant, je crois que c'est urgent d'inviter l'Église à la repentance. C'est nécessaire ou peut-être individuellement à la repentance. Il nous est dit préalablement qu'effectivement, les gens sont capables de discerner un certain nombre de choses quant à la nature et oublient finalement de comprendre et discerner les choses quant à ce qui est du domaine spirituel. Je pense que nous sommes tous conscients que nous vivons des temps particuliers, qu'on voit bien se mettre en place les choses qui sont annoncées concernant le temps de l'Apocalypse, et on voit bien effectivement que tout ceci nous dit que le Seigneur est proche. Mais le savoir est une chose, se préparer est autre chose, être prêt est autre chose. Est-ce que l'Église est prête? On parle facilement de l'enlèvement, mais sommes-nous prêts? Je pense que le danger pour beaucoup, et ça peut tous nous concerner évidemment, c'est de finir par être pris par tant de choses, les choses de la terre. Le Seigneur a averti, il a dit que les choses n'étaient pas mauvaises en soi, mais qu'elles devenaient si importantes, si étouffantes, qu'on en venait finalement à oublier l'essentiel, c'est-à-dire le Seigneur, son retour, et le fait d'être prêt pour le retour du Seigneur. Alléluia. Sommes-nous prêts? L'Église de Jésus est-elle prête? On sait que Jésus prépare son Église, et il la part, il veut qu'elle soit irréprochable, qu'elle soit pure. Est-ce que l'Église est proche, est propre? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce que nous avons fait le ménage, si je veux dire, dans nos vies, afin qu'effectivement, eh bien, nous puissions soupirer après le retour de Jésus-Christ? Alléluia. Oui. Beaucoup sont capables de dire aux autres, voyez les temps dans lesquels nous sommes, oh, le Seigneur est proche. Mais est-ce que celui qui dit cela, et ça peut être n'importe qui, ça peut être moi, nous nous remettons chacun en question et en cause par rapport à cela, est-ce que réellement je me prépare, est-ce que je vis comme si je devais revenir à l'instant même, ou dans les 10 minutes qui suivent? Il y a des gens qui disent, ne reviens-tu pas à tel moment, parce que là, je suis un peu dans la tête, parfois j'abuse un peu. On se triste parfois de voir ça, de savoir ce qui se passe. Je crois que l'Église doit se réveiller. Je crois que l'Église doit s'agenouiller devant le Seigneur. Qu'elle doit prier, qu'elle doit jeûner, qu'elle doit prier. Qu'il y a nécessité de revenir à Dieu pour certains. On peut être présent dans ce lieu et pourtant n'être pas en communion avec le Seigneur. Alléluia. Alors ici, c'est le chapitre 13 qui m'intéressait pour commencer, même si j'ai lu un petit peu ce qui était avant parce que ça me paraissait nécessaire, mais voilà des gens qui viennent auprès de Jésus et puis qui lui disent, voilà, est-ce que tu es au courant? En tout cas, il y a des Galiléens, finalement, Pilate a mêlé le sang de ces gens-là avec leur sacrifice. D'une certaine manière, ils veulent dire, qu'est-ce que tu en penses, Jésus? Les Galiléens, ce sont des gens terribles. Ils font les sacrifices, mais ils ne font pas comme il faut. Alors, ce qu'ils souhaitent, c'est que Jésus, finalement, dise du mal des Galiléens, ou dise du mal de Pilate, et puis il y en a qui, après, ils vont répéter en disant, oh, Jésus, il encourage à la révolte. Et puis, vous savez, il y en a, ils sont toujours, parce que Jésus était réputé ami des Galiléens. Donc, c'est un moyen de dire, quand même, Jésus, pas trop de cette profession. Il y a des gens qui ne méritent pas. Donc, ils essaient de le piéger. Ils essaient de le surprendre. Et la réponse de Jésus, croyez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Si toutefois, il n'y avait que les Galiléens comme pécheurs, hein, pour qu'ils aient souffert de la sorte, on dit non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, ce n'est plus quelque chose qui concerne les Galiléens, mais ceux qui sont venus à Jésus, si vous ne vous repentez, on est prêt à diviser les autres. On est prêt à diviser les autres. Hein. Parfois, voir et juger les autres permet aussi de minimiser nos propres fautes, finalement. Oh, t'as vu ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu viens de faire? Minimiser ou taire nos fautes. Et Jésus leur dit, voilà, ce qui leur arrivait, c'est dramatique, c'est vrai. Mais qu'il s'agisse d'eux ou qu'il s'agisse de vous, si vous ne vous repentez, malheureusement, vous périrez. Et Jésus va finalement se servir aussi d'un événement qui est arrivé pour les interpeller et il va leur dire, mais finalement, que pensez-vous de ces 18 personnes que qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué? Est-ce que vous êtes plus coupable? C'est des gens de chez vous, c'est des gens de Judée. La tour qui est tombée, c'est pas Pilate qui l'a fait tomber, c'est peut-être même Dieu. Alors, vous jugez les Galiléens, mais vous... Et vous savez, parfois, quand il arrive des problèmes aux gens, tout de suite, on dit, oh, c'est qu'ils ont dit beaucoup péché. Ça peut être le cas. Et ce n'est pas non plus lorsque quelqu'un se dit, moi, tout va bien, que pour autant, sa vie soit en règle avec Dieu. J'ai connu une personne qui vivait dans le désordre, une chrétienne. C'est pas ça. Elle vivait dans le désordre, elle lui expliquait, elle dit, non, mais elle me dit, moi, je suis en paix. Je dis, c'est pas la paix de Dieu, puisque c'est pas en accord avec les Écritures. Pas. Vous voyez, quelqu'un peut se réfugier, je suis en paix. Et on peut être en paix, est-ce que ça signifie qu'on est en règle avec Dieu? Bien sûr, on peut être au contraire agité parce qu'on sent qu'on n'est pas en accord avec le Seigneur. Et vous savez parfois, ce sont des choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais au début, ça, quand il n'aura pas réglé, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas. Donc, je sais qu'il y a des situations où on a exposé des choses aux gens, ils n'ont pas voulu. Notre responsabilité à nous, c'est de dire les choses. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, une responsabilité vis-à-vis des autorités de ce pays, concernant ce que nous allons devoir présenter comme dossier pour la reconnaissance du pays de notre association. Mais au-delà de cela, le plus important, c'est la responsabilité que nous avons pour chacun d'entre nous, afin que nul ne s'égare, afin que nul ne se perde. Nous ne voulons pas oublier que c'est cela l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et voici ce drame qui est arrivé. Ne résulte pas nécessairement du fait que ces gens aient eu à commettre du péché et sans doute étaient-ils de toute manière pécheurs. Mais Jésus, au travers de cela, dit, plutôt que de juger, d'examiner et de penser que ce qui arrive aux autres est la conséquence ou la résultante des fautes qu'ils ont commises, voyez où vous en êtes, examinez-vous vous-même. Parce que finalement, les juifs sont dans une fausse sécurité. Hein. Et on peut être dans une fausse sécurité, se dire, je fais partie des autorités de Dieu. C'est pas le mouvement qui sauve, hein. C'est le Seigneur. Alléluia, Jésus. Et c'est aussi de conformer notre vie à la volonté, à la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la vraie crainte de Dieu? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans l'Église, en fait? Bon, parfois, il y a des gens qui rentrent dans l'Église, c'est tout le temps marché. Mais non, c'est la maison de Dieu. Posons-nous simplement la question si Jésus était là à la place des prédicateurs. Il y a beaucoup de choses que Jésus serait plus dans l'Église. Hein. Ou bien les gens ne voulaient pas venir en disant que c'est trop sérieux, ou bien on serait par terre. Face à la sainteté de Jésus. Amen. Amen. Que l'Église soit une maison de prière, Jésus. On sait comment il a réagi par rapport à un certain nombre de choses qui se passaient dans le temple. C'est un lieu de prière, c'est un lieu saint, c'est un lieu où il y a la présence de Dieu, et c'est un lieu où on veut que l'Esprit de Dieu puisse effectivement se manifester. Alléluia! Il faut qu'on ait du discernement, effectivement, le frère Alain tout à l'heure l'a rappelé, mais c'est un don spirituel. Il faut savoir écouter. Il faut que l'Église apprenne à dire là, on fait silence parce qu'il faut écouter. Dieu a peut-être parlé à quelqu'un d'autre, mais il m'a peut-être parlé. Et quand il en soit, s'il a parlé à quelqu'un d'autre, je suis pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Et il faut qu'on ait ce discernement spirituel pour savoir, dans le but, quels sont les moments où on peut chanter, les moments où, effectivement, nous devons nous taire, les moments où nous pouvons élever notre voix. Alléluia. Amen. Et même s'il y a un don spirituel, nous n'allons pas nécessairement dire. Amen, parce qu'il peut être un bon spirituel, mais il peut être un bon charbon. Pour la Bible nous dit que nous devons examiner. Amen. Alléluia. Et c'est bien quand le don est dans l'Église. Ça permet que vous soyez examiné par l'Église, parce que vous savez, vous avez une prophétie de cuisine, comme on dit. Quelqu'un prend à part. C'est que tu vas trouver. J'en ai commis des trucs, ça, attention quand même. Je préfère que ça puisse être examiné par le plus grand nombre, parce qu'il y en a qui sont fait piéger hein, par les prophéties de cuisine. Ah Seigneur, donne-nous d'abord le discernement. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que nous avons, puisqu'il est question aussi de repentance, et que nous avons affaire à des gens qui pensent que ça n'est pas un message pour eux, est-ce que nous avons conscience, moi-même, nous tous, de ce que le péché, de la gravité du péché, de ses conséquences, de sa subtilité parfois. Parce que parfois le péché, il est là où on ne le discerne pas, où on ne veut pas le reconnaître. Et il faut que l'Esprit de Dieu nous éclaire. C'est en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, qu'on va pouvoir dire, ah, telle chose n'est pas bonne, telle chose n'est pas agréable à Dieu. Est-ce que nous avons en mémoire la gravité du péché? Est-ce que nous avons la sensibilité pour savoir ce qui est du péché? Ou est-ce que nous sommes dans une fausse sécurité ou dans de faux raisonnements? Il y a des questions de raisonnement aussi ce matin. Il y a parfois de faux raisonnements. Et quand on raisonne pour le faux raisonnement, parfois c'est non, hein. Vous n'allez pas lâcher le morceau. Dieu non plus. Celui qui résiste. Parfois, je prends l'image, une fourmi, il vient de voir, il lève le poing. On est la fourmi, hein. Et on se permet de lever le poing contre un Dieu qui est tellement, tellement grand, et puis on résiste, et puis on veut avoir raison. Il faut du temps gâché et du temps perdu, d'ailleurs, hein, quand les gens ne veulent pas, effectivement, eh bien, reconnaître les raisonnements dans lesquels ils veulent capturer. Et donc, ils savent qu'ils sont contraires à la parole de Dieu, ne sont pas bons, qu'ils doivent les abandonner. Alléluia. Alors, on va faire une autre lecture, enfin, dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as prouvés lenteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et qui n'était point lassé. Jusque-là, on a envie de dire une église comme ça, c'est best, hein. C'est la meilleure. Hein. Franchement, les œuvres, la persévérance, etc. Ils sont même capables d'éprouver ceux qui se prétendent apôtres. Vous savez, aujourd'hui, il y a trois ans d'apôtres. Parfois, ils sont recommandés tout par eux-mêmes. Ils les ont éprouvés. Quand tu dis que tu es un apôtre, on va prendre le temps de vérifier. À une autre église, Jésus dit qu'il reproche que cette église se laisse enseigner par quelqu'un, une femme qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Mais, en même temps, il y a trois noms de prophètes et de prophétesse. Ça se court et plus souvent, nous sommes bien déçus. C'est aussi un moyen de savoir. Quand ils aiment beaucoup l'argent. Hein? C'est vrai? Oh là là! Oh là là! Mes bien-aimés, vous savez, il y a plein de choses qui se font partout. Il faut faire très attention, etc. Quelqu'un vient et dit je suis ceci, etc. On va prendre le temps de venir. Le message, mais aussi la vie. Et aussi, la vie, alléluia. Il y a des pommes d'ailleurs. On se dit qu'il y a des chrétiens qui se laissent verser et vermer par ces choses. Vous savez, éprouver, et puis ils ont pu dire c'est pas vrai. Il se dit, mais il n'est pas. Il savait éprouver. Alléluia. Tu as éprouvé ce qui se dit d'abord, tu ne me laisses pas, tu les as trouvés menteurs, et ça. J'espère qu'il n'y a pas de menteur dans la vie. Oh non, frère. Une fois que tu entends, une fois que tu entends. Il y a le demi-mensonge aussi. Hein? Je ne cache qu'une partie. Vous savez, parfois, en cachant une partie, en fait, ça permet de ne pas savoir la vérité. Hein? Je l'ai souvent dit, le mensonge, il vient de Satan et il honore Satan. Ça, ça dit que dans les églises, il y a des gens qui commencent à être hypocrites et menteurs. Ça, Satan dit, ça, c'est tout moi. Je suis bien là. Ah ben non, on ne veut pas. On veut bannir le mensonge. Alléluia. Et si peut-être quelqu'un est enfermé dans un mensonge, parce que ça arrive, il faut revenir à la lumière. Ah, parfois, c'est difficile hein, de devoir se ressaisir, se reprendre et de dire la vérité. Mais c'est à ce prix aussi qu'on retrouve la communion avec le Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai connu il y a des gens qui font les choses par derrière. Mais on va parler un petit peu aussi avec un autre. Les choses, les gens peuvent faire par derrière, ça ne peut pas être les hommes. Dieu. Vous avez quand il a eu péché, c'est lui. Mais apparemment, Dieu ne bouge pas. Alors, si Dieu ne bouge pas, avait détenu à Dieu. Et Dieu a son temps. Dieu a son temps. Et plutôt que d'attendre que Dieu se manifeste, si nous savons que nous nous sommes mal comportés, réagissons. Alléluia. Réagissons. Amen. Désarmons Satan, ce que je veux dire ainsi. Mais cette église remarquable, Jésus lui dit. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu fais des choses remarquables, tout est bien d'une certaine manière. Les hommes peuvent te louer, mais il n'y a plus le premier amour. Il n'y a plus le premier amour. Il n'y a plus cet amour pour Jésus. Il n'y a plus cet amour pour les frères. Il n'y a plus cet amour pour les non-croyants. On peut faire plein de choses. Et l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Parce que nous avons ce premier amour, ou plutôt que la repentance pour nous ce matin, ça serait de retrouver ce premier amour, retrouver cet élan, retrouver cette ferveur, cette simplicité aussi. Alléluia! Amen! Amen! L'amour va nous presser, l'amour pour Jésus devrait nous presser. Ok, les jeunes sont amoureux l'un de l'autre. Je pense que c'est de te retrouver. Hein. Ça compte pas pour après. C'est pareil. Qui a pensé que ça compte pas après, c'est tout pareil. Et pourtant, même ça, ça nous parle parce que justement, des années après, par rapport à Jésus, on a besoin de plus chez maintenant. On a besoin de retrouver ce élan, cet enthousiasme. Amen. Peut-être que ça va se réfugier à vous voir. Ouais, mais j'ai tout déçu. Ah, ben moi aussi. Hein. On a toujours des choses qui vont nous décevoir. Nous-mêmes, nous pouvons nous décevoir. Mais ça ne doit pas être le travail de Jésus. Et pas même pour les frères. Et pas même pour les sœurs. Amen. Amen. Ça a été déçu par un frère ou par une sœur, mais tu l'aimes. Ça va être le meilleur moyen de surmonter les choses. Et si tu es là en train de garder dans ton cœur, ça. Voilà, je vais faire une serre, hein, justement. Après, tu viendras demander pour vivre toi. Aimons les incroyants. Ah, Jésus est l'ami des gagnants de l'art. Et Jésus, vous lirez après, il va faire une chose qui, pour l'époque, si tu te mets dans le contexte, ça pourrait être aujourd'hui. Dans la synagogue, il va y avoir une femme. Et Jésus va faire quelque chose qui va choquer, il va là. Alléluia. Le chef de la synagogue va dire, quand même, il y a 6 jours pour venir se faire guérir, finalement il s'en prend à la femme alors que Jésus qui a pris l'initiative. Elle y est pour rien, si vous voulez dire, mais tant mieux pour là. Qu'est-ce qu'on peut être hypocrite parfois, hein? Il est hypocrite celui-là. Il n'ose pas s'en prendre à Jésus, surtout que bon, si cette femme est redressée, il a envie de reconnaître qu'il y a un miracle quand même. Depuis 18 ans, il veut bien savoir qu'elle a été courbée. C'est vrai. Mais ça gêne parce que en ce temps-là, il y avait une prière que faisaient les Juifs, les hommes, hein? Il bénissait Dieu tous les jours de mettre ni un gentil, c'est-à-dire ni un païen, ni une femme, ni un esclave. Vous n'êtes pas tous les deux. Alors, vous comprenez que Jésus dérange. Mais Jésus est venu pour se pourrir. et du faible. Jésus est venu pour redonner sans doute aussi à la femme la place qui vient au couronné finalement. Alléluia. Jésus est venu pour redresser ce qui est courbé. Amen. Alléluia. Jésus manifeste réellement l'amour. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Donc cette église d'Éphèse, ce qui est terrible pour elle, c'est qu'elle est tombée parce qu'elle a perdu, elle a abandonné une tradition qui elle a laissé, son premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Ils ont dû continuer les mêmes œuvres, mais ce n'était plus dans l'amour. Donc, pour revenir à l'esprit dans lequel ils faisaient les choses au retard. Amen. 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 Pour faire les choses dans cet esprit d'amour. Pour l'Église, pour le Seigneur, pour les non-croyants. Alléluia. Amen. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te repentes. J'ôterai le chandelier. Le chandelier, c'est la lumière, c'est le témoignage. Quel est le témoignage de l'Église? C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. La crainte, on en parlait finalement, la crainte des autorités, c'est que dans les lieux de culte, il y a des choses qui incitent à la haine. Mais dans l'Église, on ne doit entendre que des choses qui incitent à l'amour. Alléluia. Il ne suffit pas de le dire, il faut le pratiquer. Sinon, il n'y a pas de chandelier. C'est une église évangélique, mais il n'y a pas le chandelier, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la vie de l'esprit. On n'a pas envie que ce soit comme ça. On a envie qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit. Qu'il y ait le fruit de l'Esprit. Alléluia! Qu'il y ait le fruit de l'Esprit. Amen! Que lorsque les gens rentrent, qu'ils sentent cette chaleur, qu'ils soient touchés par la puissance de Dieu. Alléluia! Est-ce qu'on veut que l'Église retrouve ces choses? Afin que quand quelqu'un rentre, qu'il soit saisi par le Seigneur, saisi par l'Esprit, délivré. Parce que je crois qu'il y a besoin de délivrance. Cette femme était courbée, elle a été redressée. Et combien de gens ont été restaurés par Jésus? Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et que, vous savez, l'église d'Éphèse, elle avait été appelée à porter un amour inaltérable pour Jésus. Et on voit que finalement, avec le temps, il y a assez vite, il n'y a plus cela. Ça vient vite, hein. Ça peut venir vite. Et c'est pourquoi il faut renouveler quelque chose. Il faut les réactiver, les réactualiser, si je veux dire. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je reviens à ce que nous avons lu dans Luc, chapitre 13. Et Jésus va aussi dire une parabole. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit et il en trouva point. Alors les deux vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit et que tu dis, ils en coupent point, coupe-le. Pourquoi coupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je le ferai toujours. Peut-être à l'avenir, il aura tout du fruit, sinon il le coupera. Et ce qu'il entend très bien, c'est quand il parle, le couplet, ça représente Israël. Et c'est bien qu'il est en train de dire Israël, pas du feuillage, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de fruit. Le feuillage du figuier, c'est bien. Parce qu'on peut se mettre un long dessus. Mais quand même, ce qu'on attend du figuier, c'est qu'il porte le figuier. Alléluia! Amen! Amen! Ce que Dieu attend de l'Église, c'est qu'elle porte le fruit de l'Esprit. Alléluia! On peut être attiré par le feuillage. Il y a des gens qui ont mais il attend le figuier. Le feuillage, ça peut être l'hypocrisie, alors. Il y a ta parole, ça sent, ça ressemble. Mais on va très vite voir qu'il n'y a pas le fruit. Il y a le fruit de Dieu au sein de l'Église, dans nos vies. Alléluia. Amen. Il y a le fruit du Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Amen. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Jésus fait sans doute référence au travers des 3 années, aux 3 années qu'il a passées ici, au milieu du peuple d'Israël. Et puis Jésus sait que parce qu'ils vont demeurer dans la désobéissance, finalement, le malheur va s'abattre sur eux. Et que Jérusalem sera détruite, sera rasée. Et j'ai voulu les avertir, ils n'ont pas voulu entendre. Et nous, nous pouvons dire, voilà, nous avons compris ce qui est arrivé à Jérusalem, mais justement, nous voulons tenir compte de ça, afin que nous ne nous demeurions pas, nous, comme des auditeurs oubliés, et que nous puissions faire ce que Dieu attend de nous.
Alléluia.
Je crois qu'il est temps de se réveiller.
Amen.
Vous savez, parfois on a parlé du réveil et on a pensé que c'était aux gens de l'extérieur que cela s'adressait. Mais le réveil commencera par l'Église.
Amen. Amen.
Et si l'Église est réveillée, je pense que pour elle, il peut y avoir aussi des tas de choses qui se passent.
Alléluia. Amen.
On entre vite dans des routines, dans des habitudes, des traditions. Je l'ai dit vendredi, mais je vais le redire parce que vous n'étiez pas nombreux. Et nous étions au congrès, donc des assemblées de Dieu, où le prédicateur est un portugais qui a illustré aussi les choses en prenant l'exemple de ce qui est arrivé dans une famille. C'est une française, une victime d'ailleurs, mais peu importe qu'elle ait été française ou autre, en tout cas, c'était il y a très longtemps. Cette femme avait préparé une dinde d'une certaine manière. Voilà, et ça avait régalé toute la famille, ils étaient émerveillés par cette dinde. Il y avait aussi une particulier, c'est qu'il n'y avait pas les ailes. Elle avait coupé les ailes. Alors, la recette, finalement, a été appropriée. Chacun s'est approprié la recette. Donc, la fille a fait la dinde de la même manière, sans les ailes et avec les mêmes ingrédients. Et puis, la petite fille a fait la dinde sans les ailes et avec les mêmes choses. Et puis, l'arrière-petite fille a appris à faire la dinde comme on lui a enseigné, parce que c'est comme ça. Et puis elle s'est quand même posé la question, elle s'est dit, mais pourquoi on fait comme ça finalement? Pourquoi il n'y a pas les ailes? Alors elle est allée voir la grand-mère qui est encore vivante, elle lui dit, mais pourquoi tu ne mets pas les ailes? Alors, écoute, à l'époque, mon four était trop petit, je ne vais pas rentrer là-bas dans les ailes. Vous trouvez que c'était très parlant. Vous voyez, voilà, on a nos habitudes, même dans les églises, hein. On a nos habitudes. Et si on nous dit, on nous demande pourquoi on fait ça, alors on a toujours fait ça. On a toujours fait ça. Pour dire aussi que parfois les choses pouvaient avoir changé, et ce n'était pas forcément mal. Peut-être qu'on a toujours fait ça, sans savoir pourquoi on le faisait, est-ce que c'était vraiment ça qu'on devait faire. Vous êtes quelqu'un comme ça, hein, une sorte de rituel, de rite. Voilà, parce qu'il a dit faire, et que je vous redis, parce que je l'ai dit aussi vendredi, mais ça m'avait marqué qu'il y a très longtemps, ce qui était devenu un temple protestant, les gens avaient, à un certain endroit, un mur blanc, ils étaient presque un mur devant. Alors, bah, ça se faisait, donc tout le monde faisait pareil, chacun avait appris à faire comme ça. Et puis, très longtemps après, je ne sais pas si vous avez dit pour enlever la partie pour refaire des travaux, j'ai découvert qu'il y avait une vierge derrière ça. Ah! Et c'était finalement un lieu qui avait été utilisé par les catholiques avec des rituels catholiques, et que une fois que les protestants les repas, ils avaient gardé un peu les traditions. Parfois, on fait des choses par habitude, hein, par mimétisme. Mais il faut vous faire ce qu'on le fait.
Amen.
La personne qui pouvait le faire par habitude, c'est très dramatique. Alors pourquoi pour éviter certaines habitudes, je dis qu'on fait tout ça. On fait une fois par mois. Et pourtant, je dis de le faire autant de fois qu'on le peut pour annoncer son retour.
Alléluia.
La mémoire de ce qu'il a fait. Mais évidemment, quand vous tombez dans un rituel, dans une habitude, c'est notre danger. On a tendance à être comme ça. Et il faut qu'on accepte peut-être d'être remis en cause parce que ça peut faire ça. Mais en tout cas, aussi à examiner finalement si nous avons abusé de la façon de faire d'autres personnes, tu sais, peut-être que les choses ne sont pas comme on le pense, au contraire. Hein. Mais en tout cas, que le Seigneur fasse que ce soit figé dans quelque chose de rituel et que vous puissiez être sensible à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Moi, je crois que le Saint-Esprit est soufflé et bousculé. Le problème, c'est que si Dieu veut nous bousculer, on est d'accord pour qu'il nous bouscule. Ça peut changer notre quotidien. Hein. Et c'est peut-être notre danger de dire, Seigneur, notre routine évangélique nous convient bien. Ah oui, bouge les autres. Bouge les autres, mais pas moi. Mais s'il y a une action du Saint-Esprit, s'il y a un vent de l'Esprit, je crois que Il y a beaucoup de choses qui vont être changées. Dans le coup de vie que nous avons mis.
Alléluia.
Et c'est sans doute nécessaire. C'est sans doute nécessaire. Amen. Parce qu'on peut finalement être enfermé dans quelque chose, être enfermé soi-même, et dans une fausse sécurité. Que le Seigneur puisse vraiment permettre que tous les lieux de souffle sur nos assemblées, la nôtre en particulier, qui est vraiment ce qu'on a fait pour nous maintenant, que le Seigneur puisse souffler, qu'il y ait un vent nouveau, un vent de l'esprit, que l'Église retrouve cette ferveur, retrouve cet amour pour Jésus, cet amour pour les frères, cet amour pour les sœurs. La Bible nous parle même d'aller jusqu'au sacrifice les uns pour les autres.
Oh, Seigneur, oh, oh.
Amen. Peut-être que quelqu'un peut régler les problèmes. Il peut régler les problèmes avec l'un ou l'autre, on sait. Il y a des problèmes personnels aussi, parfois. Il y a des choses auxquelles on reste attaché alors qu'on sait qu'elles ne sont pas bonnes. Je crois que c'est le départ. Amen. Qui permet. Je me rappelle, ça m'a frappé, ça m'a touché le prénom de quelqu'un. Vraiment, par rapport à ce qui était péché, justement, quand on compromis. Je ne pouvais même pas savoir que quelqu'un vivait en compromis. On croit connaître les gens. Dieu sait. Cette personne, quelques jours après, m'envoyait une lettre disant qu'elle quittait l'église parce qu'elle vivait dans le compromis. Mais elle ne voulait pas changer. C'était vous. Parce que, puisque je ne savais rien, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Et la personne a dit, je comprends, je suis dans le compromis, ma place n'est pas dans l'église, alors je ne viendrai plus. C'est terrible. Il peut mieux de dire, j'ai compris, ça en a parlé, je suis dans un compromis, je vais mettre de l'ordre dans ma vie. Je sais que ça fait la vie des temps, mais je sais qu'il a été malheureux dans ce compromis. C'est terrible. Parfois, on résiste. Hein. Et si c'est Dieu qui parle, alléluia. Si c'est Dieu qui parle, amen. Amen. On souhaite que Dieu nous parle. On est d'accord. Et parfois, il y a des gens qui disent, oui, mais dis-moi ce que j'en veux pour moi. Mais quand Dieu parle, c'est pour notre bien, c'est pour nous relever. Si Dieu détecte et proclame une chose, c'est qu'il sait qu'il a aussi la solution. Alléluia. Amen. Alors que nous puissions dire, amen, Seigneur, j'ai entendu, tu t'es adressé à moi. Vous savez, parfois, quand que ces paroles sont prononcées, les autres ne peuvent pas nécessairement savoir. Donc, on sait bien que le Seigneur qui vous parle personnellement et qu'il respecte d'une certaine manière notre intimité. Et Dieu parle pour notre bien. Alléluia.
Amen.
Amen. Amen. Et il y a des joies ce matin, de prendre position, d'être à sa propre vie spirituelle, d'être à sa propre relation avec le Seigneur, d'être à son zèle pour Jésus. Peut-être que quelqu'un veut dire, je veux venir maintenant à toi, Seigneur, parce que je reconnais que j'ai besoin de toi. Si quelqu'un a besoin de régler des situations, de régler des conflits, tu sais, je ne sais. Et puis, on est dans toutes les choses qui, malheureusement, entretiennent dans les problèmes. C'est important de te dire, c'est oublié. Dans le monde spirituel, c'est pas oublié. C'est pas oublié. Même si tu disais, c'est un conflit ancien. Ni Dieu, ni Satan n'ont oublié. Mais Satan fera s'en servir. Alors, on va prendre la décision de l'édifier, de réparer le texte, de demander pardon. Amen. Dites-nous pas les contextes. Et je crois que quand pensez à quelqu'un en particulier, c'est d'autant mieux parce que quand on sait que quelqu'un peut être concerné, on peut se sentir mal à l'aise pour péché. Mais Dieu parle pour notre bien. Alléluia. Que nous puissions prendre conscience que le message de la repentance, avant même que on puisse l'adresser à celui d'homme, il peut nous concerner, nous, en tant qu'Église. Il peut nous concerner, nous, personnellement. Et se repentir, c'est quoi? C'est changer de mentalité. C'est métanoïa, transformation de l'être intérieur. Amen. Amen. Ce sont nos addictions. Ce sont les choses qui ont pris la première place dans nos vies. Il y a des maisons où, oh, peut-être on dira, mais il y a plus. Avant, j'étais. Et là, j'avais des statues et je suis parti. Peut-être que c'est une autre chose. Un autre Dieu, une autre humanité, une autre humanité, une autre nation, une autre forme d'esclavage. Nous ne voulons dépendre que de Jésus. Amen. Et
puis, peut-être que les choses ne sont pas comme on voudrait. Mais, pas bien mal. Je vous aime.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Amen. Et je termine par cela, mais j'ai le témoignage de ce pasteur qui subit un drame. Sa fille est morte. C'est un accident. Vous savez, dans ce cas-là, vous avez des consolateurs fâchés, vous avez le job pour faire des disciples, et vous avez toujours des gens qui viennent dire que peut-être si elle est morte, c'est parce que vous avez des péchés. Merci d'encouragement. Et étrangement, malgré sa souffrance, malgré le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi ça s'est arrivé, l'église construit. Je vais vous donner l'histoire. C'est peut-être même encore plus frustrant quand on te dit que je suis malheureux, je vais te frapper personnellement, que je ne comprends pas, et autour tout dans tout d'homme, et même par mon entreprise. Cet homme, finalement, au bout d'un moment, a dit voilà, Seigneur, enfin, je suis en train de me ronger, à vouloir te poser toujours la même question et savoir pourquoi c'est arrivé. Maintenant, comme moi, je ne vais plus poser cette question. Je vais simplement te dire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alléluia. Je vais vivre dans la douleur, dans la souffrance. Et tout simplement, maintenant, je vais marcher avec toi. Parce que même s'il y a eu la difficulté, même s'il y a eu la peine, même s'il y a eu ces choses que je n'ai pas pu comprendre, c'est un mot de mort. Alléluia. Il y a un autre homme qui était passé par cette épreuve, un jour, un prophète, un vrai. Et oui, un vrai. Là aussi, cet homme avait souffert. C'est tout ce que l'on pouvait supposé, concernant sa fille lui-même, c'était là aussi une enfant qui était mort dans un océan de vie. Un homme est venu me voir et lui a dit, le Seigneur aimait tellement ton enfant, il l'a pris avec lui. Alléluia.
Amen.
Évidemment, on pourrait dire à Dieu, mais si tu ne m'étends, pourquoi ne pas me l'avoir laissé, et puis la prise.
Amen.
Amen. Alors, si peut-être dans ton cœur, il y a des peines, des souffrances, des choses qui disent, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les choses ne sont pas arrivées. Fais confiance à Dieu.
Amen.
Il faut vous remplir de l'eau, mais sinon, dis au Seigneur maintenant, qu'est-ce qu'on dit?
Amen.
Je fais confiance. Je fais confiance, quoi qu'il arrive. Alléluia.
Amen.
Et puis finalement, si mon enfant est parti avec le Seigneur, je veux avoir fait ce que je veux faire pour retrouver cet enfant.
Amen.
Seigneur, fais-nous grâce. C'est vrai que nous ne comprenons pas toujours tout, et que parfois, peut-être même, il peut en résulter dans le cœur de révolte, des questions ou des choses harcelantes. Seigneur, si quelqu'un était ainsi, bien guéri, affranchi, libéré. Si nous avons fauté, si nous avons des addictions, s'il y a des choses en nous qui nous empêchent d'aller de l'avant, Seigneur, toujours être éclairé, parce que nous voulons justement aller de l'avant. Nous voulons faire ton œuvre, ta volonté, avoir l'assurance aussi de faire partie de cette épouse qui attend Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Et, quel que soit le besoin, nous voulons prendre la décision ce matin de mettre l'ordre dans nos vies, de retrouver ce feu, retrouver ce feu, retrouver ce élan, retrouver ce zèle. Ce zèle que nous avons peut-être parfois pour des choses de la terre, mais que nous n'avons plus pour Jésus. Nous voulons, Seigneur, que le zèle pour les choses de la terre disparaisse. Et que le zèle pour Jésus soit tout à fait réactivé. Que de grâce. Si nous devons juger les autres, mettons ainsi en oubli nos propres fautes, pardonne-nous. Et si peut-être nous avons oublié du bon de pardon, qu'on puisse le faire. En tout cas, Seigneur, nous ne voudrions pas être dans une fausse sécurité. Nous ne voudrions pas, Seigneur, être des vies incroyables, mais au contraire de rappeler que nous sommes des bénéfices de ta grâce. Bénis celui qui a étonné ton secours ce matin. Que nous sommes toi, besoin de toi. Nous sommes tous finalement de la même nature. Nous avons tous besoin de toi. Nous sommes conscients, nous avons tous besoin de retrouver quelque chose qui peut être fait du premier amour. Amen.
Amen.